J'aimerais parler sur Jacob, le trompeur, dans Genèse 25, verset 19. « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, les enfants se heurtaient en son sein, et elle prit, et elle dit, « Si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus petit sera assujetti au plus... Le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Amen. Jacob est donc né dans le foyer de Isaac et de Rebecca, et on lui a donné le nom de Jacob. Et vous savez qu'en hébreu, chaque nom a une signification. Ici, dans l'hébreu, Jacob signifie celui qui tient par le talon, c'est-à-dire le supplanteur. Et c'est vrai que sa vie va être marquée par la faute, puisqu'il va avoir des attitudes de tromperie à l'égard de son frère. Mais la faute a marqué chacun de nous. En réalité, nous sommes tous marqués par le péché. Dans Romains chapitre 3, verset 23, Paul écrit « Car tous ont péché ». Donc Jacob, oui, on peut mentionner sa faute, mais on peut parler de la nôtre. Puisque tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quand même un espoir, c'est ça qui est remarquable dans la parole de Dieu, c'est que même si elle fait un constat très sombre des réalités spirituelles, le salaire du péché, c'est la mort, tous sont péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés, il y a une issue, il y a un chemin, c'est par la croix, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En même temps, la Bible nous dépeint notre faute, notre séparation avec Dieu. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous perdus. Mais en même temps, il y a le chemin qui mène à la vie éternelle, qui est accessible en Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour effacer nos péchés. Alors le premier point, c'est le verset 21. Ce que je remarque dans ce texte, c'est ça commence avec la stérilité de Rebecca. Si on remonte un petit peu en arrière dans le temps, Isaac cherchait à se marier et il ne trouvait pas de femme dans le pays de Canaan. Et donc, il a été conduit à envoyer Eliezer à Padan Aram pour trouver une femme pour lui. Alors c'est important de bien choisir son conjoint et surtout d'être conduit par Dieu dans le choix du conjoint. Donc, effectivement, Eliezer a été envoyé à Padan Aram pour chercher une femme pour Isaac. Il a été envoyé à Charan, plutôt. Et Eliezer, quand il arrive là-bas, il fait une prière à Dieu. Il fait une prière à Dieu en disant, Seigneur, la première personne qui viendra, la première femme qui viendra à ce puits pour donner de l'eau à mes chameaux, ce sera celle que tu destines pour Isaac. C'est une prière très précise. Il y avait une chance sur 10 000 pour trouver la bonne personne. Alors, il s'est recommandé à Dieu, plutôt que de chercher, d'aller à tâtons, il a prié. Plutôt que de faire plusieurs tentatives, il a prié, il s'est laissé conduire. Et effectivement, Dieu a poussé Rebecca à venir ce jour-là. Et c'est ainsi que Eliezer a été conduit vers Rebecca. Rebecca n'a pas été forcée, on lui a posé la question, est-ce que tu veux? Parce que là encore, on lui fait la demande d'un mariage, mais elle ne connaît même pas Isaac. Je ne sais pas combien de femmes auraient accepté un mariage pareil aujourd'hui. Vous ne connaissez même pas la... Juste, vous faites confiance. C'est passé comme ça. Elle ne le connaissait pas, elle ne l'avait jamais vu. On lui pose la question, est-ce que tu veux te marier avec lui? Est-ce que tu veux y aller? Oui ou non? Elle était libre, elle aurait pu dire non. Mais là aussi, c'est par la prière, c'est par la foi. Elle a vraiment senti la direction de Dieu et elle est allée par la foi. On peut dire que ce mariage était conduit par Dieu des deux côtés, donc que ce soit du côté d'Eliezer, que ce soit du côté de Rebecca. Et ils se sont donc mariés. Donc c'est important de laisser le Saint-Esprit conduire nos vies. Maintenant, un petit rappel, ce n'est pas parce que deux personnes sont chrétiennes qu'elles vont bien fonctionner ensemble. Il faut que ça soit aussi déterminé par Dieu. Il faut que le Seigneur mette son approbation. On a beaucoup de chrétiens qui se sont mariés à la hâte, pensant que du fait qu'ils étaient chrétiens, tout allait bien se passer. Mais ils n'ont pas pris le temps de prier, ils n'ont pas pris le temps de chercher la face de Dieu, ils se sont mariés. Et les difficultés étant survenues, parfois, ils se sont séparés ou ils ont divorcé. Donc Isaac et Rebecca, notons qu'ils sont bien dans la volonté de Dieu, même si c'est très particulier, la manière dont ça s'est passé. On va dire que chaque cas est particulier à chacun. On ne va pas copier ce qui a été fait, par exemple, par rapport à Isaac, mais chacun doit trouver son chemin. Ils sont bien dans la volonté de Dieu, mais je remarque que vous pouvez être dans la volonté de Dieu, même dans le mariage, et rencontrer une difficulté ici. Rebecca était stérile. Pourtant, c'était bien la volonté de Dieu qu'ils soient ensemble. Mais ils ont un obstacle majeur. Et si vous regardez la Bible, vous verrez que plusieurs couples chrétiens, enfin plutôt de croyants dans l'Ancien Testament, ont connu la stérilité. Que ce soit Anne avec Elkana, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, Dieu est intervenu et Samuel est né. Et puis dans le Nouveau Testament, vous avez Élisabeth, la femme de Zacharie, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Là encore, un ange est venu, une promesse a été faite sur sa vie et elle a enfanté Jean-Baptiste. Et les cas sont extrêmement nombreux, en fait, de mariages qui étaient bien conduits par Dieu, mais où on a rencontré la stérilité, impossibilité d'avoir des enfants. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et comme c'était conduit par Dieu, les choses se sont débloquées. Et dans la famille d'Isaac, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, parce que sa propre mère était aussi stérile. C'est-à-dire, Sarah était stérile. Et Isaac était lui-même le fruit d'un miracle. C'est pourquoi il était capable de s'attendre à Dieu, parce qu'il sait que Dieu fait des miracles. Donc, il avait lui-même eu la vie dans un foyer où la mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il s'attendait à Dieu pour sa propre femme qui ne pouvait pas non plus avoir d'enfant. Alors, quand Isaac apprend la nouvelle que sa femme est stérile, soit il y a deux possibilités quand on apprend une nouvelle comme ça, soit vous vous résignez, vous dites, c'est mon lot dans la vie, je serai stérile, je n'aurai jamais d'enfant. Ou alors soit vous prenez le chemin de la prière et vous attendez à Dieu pour une intervention miraculeuse. Donc c'est le choix d'Isaac. Il a fait monter une prière vers Dieu, une prière d'intercession. Personne ne pouvait rien faire pour Rebecca, même les meilleurs médecins de l'époque, même s'ils avaient de l'argent. Vous voyez, à un moment donné, même l'argent ne peut pas apporter la solution à vos problèmes. Il y avait tout ce qui pouvait, il l'avait fait. Ce n'est pas que les gens ne vous aiment pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas, au bout d'un moment, ça dépasse la possibilité. Et Isaac n'a pas accepté la maladie comme quelque chose d'inéluctable. Vous voyez au verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Ça veut dire on ne se résigne pas. Ça veut dire on n'abandonne pas, mais on se recommande à la toute-puissance de Dieu. Il n'avait pas mis son espoir dans la médecine, il n'avait pas mis son espoir dans des solutions humaines. Il ne s'était pas tourné vers les Astarté, c'était les dieux de la fertilité dans le pays de Canaan. Il y avait aussi des déesses de la fertilité, il y avait tout un culte pour chercher ces choses, mais il s'est tourné vers Dieu. Psaume 113, verset 9, voyez une promesse de Dieu. Il donne, c'est Dieu, il donne une maison, c'est-à-dire une famille, à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà comment nous devons prier. Il y a un blocage, il y a une situation sans issue. Implorons l'Éternel. Le deuxième point, c'est au verset 22, c'est maintenant l'opposition entre Ésaü et Jacob. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans le sein, donc de Rebecca, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Ben, du coup, la prière d'Isaac a été efficace, puisque Rebecca, qui était stérile, se retrouve non seulement enceinte, non pas de un enfant, mais de deux enfants. Ça va être des jumeaux. Gloire à Dieu pour les jumeaux. Donc, nous, pour nous, c'est une bénédiction. Hein. Et on prie pour que, voilà, dans l'Église, il y ait encore des jumeaux. On en a déjà eu plusieurs, mais c'est extraordinaire, des jumeaux. Après la stérilité, c'est l'abondance. Alors, vous connaissez peut-être la disette, vous connaissez peut-être la restriction, mais quand Dieu intervient, c'est l'abondance. Ce n'est pas un qu'il donne, c'est deux. Psaume 66, verset 12. Tu fais monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Et là, on peut louer le Seigneur et le glorifier pour sa fidélité, l'abondance. Sa famille s'est agrandie de manière extraordinaire. Normalement, il aurait fallu une première grossesse, une première naissance, donc 9 mois, et puis, au bout d'un certain temps, une deuxième grossesse de 9 mois plus une deuxième naissance. Mais là, elle a eu les deux en une seule fois. Et c'est le plus petit, Jacob, qui va dominer sur le plus grand. Puisque cette opposition va révéler en fait la nature spirituelle des deux enfants, comme quoi il y a des prédispositions. Le plus petit, c'est Jacob. Jacob qui va prendre le talon de son frère Ésaü à la naissance. C'est ça qui signifie supplanter. Et à partir de là, il y a des réalités spirituelles qui sont mentionnées. C'est que Jacob va chercher la voie de ce qui plaît à Dieu et Ésaü va s'attacher aux choses de la terre. C'est comme ça, on peut le déplorer, mais on se rend compte qu'il y a des réalités spirituelles qui sont là. Isaac, d'ailleurs, a tout fait pour donner à Ésaü le droit d'aînesse et la prééminence. Il a voulu le bénir, il a voulu que ce soit lui qui ait le droit d'aînesse, mais ça a été un échec et Dieu a permis que ce soit Jacob. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob au détriment d'Ésaü, on n'a pas la réponse. Ça, c'est dans le secret de Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisit l'un ou l'autre? Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses dont on n'aura jamais la réponse ici-bas. Il y a des choses dont on n'aura la révélation que dans la gloire céleste. Les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, toutes les paroles de cette loi. Donc, il y a des choses qui nous sont révélées, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit étudier et c'est ça qu'on doit chercher à mettre en pratique. Quant aux choix qui sont de Dieu et qui sont dans son secret, qui sont cachés en Dieu, eh bien, c'est inutile, j'allais dire, d'essayer de les étudier ou de les comprendre, puisque Dieu a volontairement caché ces choses-là qui lui appartiennent. Mais il a ses raisons, en tout cas, tout ce que Dieu fait est parfait et bon, donc il faut simplement lui faire confiance. Mais on a suffisamment de choses révélées pour nous attacher à ce qui est écrit et le mettre en pratique. Ça, c'est notre part. Donc Dieu voit à l'avance, en fait, comment les cœurs vont se comporter, parce que dans la Bible, elle parle de la préscience de Dieu. Elle dit que Dieu a connu d'avance, qu'il a vu, il sait. Par exemple, il a vu en David un homme selon son cœur, par exemple. Il a vu. Et pourtant, David, c'était le huitième de la famille, c'est-à-dire, normalement, c'était l'aîné qui bénéficiait des faveurs, mais c'est le dernier qui a été élevé par Dieu, c'est David, le huitième de la famille. Il a vu aussi chez Abel un cœur pur, alors que Caïn apportait son offrande avec un cœur amer, un cœur jaloux. La lignée de Caïn a été rejetée, la lignée d'Abel était celle de ceux qui suivent les voies de Dieu. Il a vu chez Déborah des qualités de femme spirituelle et même de leader, puisqu'il l'a établi juge dans un pays où il n'y avait jamais eu de juge femme avant. Certains hommes auraient pu dire « c'est pas normal, c'est une femme », et pourtant c'est Dieu qui l'a établi, cette femme juge. Pourquoi ? Parce que Dieu a vu dans son cœur des prédispositions. Elle était non seulement prophétesse, choisie par Dieu pour donner des révélations, mais aussi juge qui était à l'époque la responsabilité la plus élevée, puisqu'il n'y avait pas encore les rois. À l'époque des juges, c'était les juges qui gouvernaient en fait le pays d'Israël. Et donc, on voit que les choix de Dieu lui appartiennent. Il décide, il équipe et le peuple a reconnu que c'était vraiment le choix de Dieu sur cette femme parce qu'il aurait pu se révolter en disant que ce n'est pas normal ou que ce n'est pas possible, mais il y avait une onction, il y avait la main de Dieu, l'approbation de Dieu sur Déborah. Donc ici, nous avons Ésaü et Jacob, et finalement, si vous regardez les lignes qui vont être tracées à partir de Jacob et à partir d'Ésaü, on va voir deux peuples qui se profilent ici. Du côté de Ésaü, ça va être le peuple d'Édom, les Édomites. Édom, ça veut dire roux. Et comme Jacob était roux, on a surnommé ce peuple Édom. Édom, les Édomites, mais les Édomites, c'était des ennemis. C'était des ennemis du peuple d'Israël. Jacob, lui, a donné naissance au peuple d'Israël. D'ailleurs, son nom va être transformé en Israël et il a donné les 12 tribus d'Israël. Donc, le peuple de Dieu. Alors, voyez ici, deux enfants se heurtent en son sein. Il y a la lignée d'Édom, ennemi du peuple de Dieu. Il y a la lignée d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi. C'est ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on voit des images qui nous parlent des réalités spirituelles. Et cette réalité spirituelle, c'est que Ésaü, il représente pour nous le croyant qui marche par la chair et qui accomplit sa volonté sans se référer à Dieu, tandis que Jacob, il est le représentant de celui qui marche dans l'esprit et qui cherche à plaire à Dieu et à faire la volonté de Dieu. Vous voyez, derrière ces deux peuples, il y a une typologie qu'il faut comprendre sur le plan spirituel, c'est qu'il y en a qui vont marcher par la chair, c'est la descendance de Jacob, et il y en a qui vont marcher par l'esprit. Par la chair, c'est Ésaü, et il y en a qui vont marcher par l'esprit, c'est la descendance de Jacob. Donc ce combat, vous le trouvez dans Galates 5, 16 à 17. C'est le combat qui existe aujourd'hui, même dans l'Église, le combat entre la chair et l'esprit, et Paul dit, je dis, mais marchez selon l'esprit. C'est la décision que nous devons prendre, c'est de faire partie de cette descendance, cette lignée spirituelle, celle de Jacob. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Là, on parle bien de la descendance d'Ésaü, c'est celle de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous voyez cette opposition ? Spirituellement, c'est la même opposition qu'on retrouve ici. Les enfants se heurtaient en son sein. C'était une opposition physique, mais aujourd'hui, c'est une opposition spirituelle. Il y a l'esprit, il y a la chair. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le combat contre la chair, c'est la part du chrétien, c'est un combat incessant, c'est un combat qui nous pousse à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Paul dit lui-même qu'il traitait durement son corps. Ça veut dire qu'il combattait contre la chair. Il traitait durement son corps pour le tenir assujetti, pour le tenir bridé, afin qu'il se soumette à la volonté de Dieu. Pierre aussi, dans un autre passage biblique, il demande aux chrétiens de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Ben ça encore, c'est la tentation de la chair qui nous pousse au péché. Donc plus vous allez nourrir la chair, plus elle devient forte. Et Paul nous dit que nous devons être des chrétiens forts. Vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Donc vous qui êtes forts, ce sont les chrétiens matures, ce sont les chrétiens spirituels, la descendance de Jacob. Il y aura toujours des Ésaü qui vous attireront dans le mauvais chemin. Ils aiment passer du temps à parler des autres, à critiquer, à juger. Ils ne font rien, ou alors les fruits qu'ils portent, ils sont nocifs, ils sont mauvais, c'est la descendance d'Ésaü. Ils ne sont pas prêts au sacrifice, ils ne sont pas prêts à la consécration, ils ne sont pas prêts à passer du temps dans la présence de Dieu pour servir Dieu, c'est leur choix. Mais vous ne devez pas vous laisser contaminer par ce fruit-là, qui est un fruit vers la mort spirituelle. Galates 6:8, « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » On retrouve ces deux lignées spirituelles, moissonner pour la chair, moissonner pour l'esprit. C'est donc un choix à faire aujourd'hui. Un troisième point, c'est maintenant la prise de conscience de la valeur du droit d'aînesse. C'est-à-dire que Jacob, il est dit que c'était un homme tranquille. Un homme tranquille. La racine hébraïque signifie qu'il était complet, qu'il était accompli. On dit aussi qu'il était paisible. Voilà. Quelqu'un qui, en fait, aimait méditer la parole de Dieu, passer du temps à chercher la pensée de Dieu, à réfléchir sur les valeurs spirituelles, à prier. Et du coup, son père préférait Ésaü, qui était un chasseur, qui allait à la chasse, qui ramenait du gibier, qui était plus actif. Mais je remarque, Hébreux 12, 16 dit ceci, concernant Ésaü, « Veillez à ce qu'il n'y ait, donc il parle ici à des chrétiens, qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer ses sentiments. » Voyez, ici, Ésaü est décrit comme un homme profane. Qu'est-ce que c'est qu'un homme profane? C'est quelqu'un qui a peu d'intérêt pour les choses saintes de Dieu. Profane, ça veut dire qui aime les choses en dehors de la foi chrétienne. Donc si on n'a pas d'intérêt pour le culte, si on n'aime pas lire la parole de Dieu, si on n'aime pas la prière, si on n'aime pas la louange, finalement on est profane. On est profane parce qu'on aime plus les choses qui sont en dehors de ce que Dieu approuve. Jacob aspire au droit d'aînesse. Donc on a ici le profane Ésaü, qui pour lui, le droit d'aînesse, on peut le vendre contre un plat de lentilles. Mais Jacob, lui, il a compris spirituellement que le droit d'aînesse, ça vaut beaucoup sur le plan spirituel. C'est une source de bénédiction. Et lui, pour lui, c'est très important. Il voudrait avoir ce droit d'aînesse. Ésaü, lui, reste dans une vision terrestre. Il n'a pas conscience du plan de Dieu. Il dit, à quoi bon? Je vais mourir comme mon père, comme ma mère. À quoi bon? À quoi ça sert le droit d'aînesse? Vous voyez, il n'a pas la vision spirituelle, il n'a pas les yeux pour voir les choses de Dieu. Par contre, il voit le plaisir immédiat de consommer un plat de lentilles et il va échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles à son frère Jacob. Donc, ça représente celui qui méprise les choses de Dieu et qui va s'attacher aux choses du monde, comme le confort, une belle maison, une voiture, chercher les biens matériels et voilà. Et puis vivre que là-dedans et pas se soucier de la volonté de Dieu, mais se complaire dans un certain matérialisme. Alors, Ésaü ne s'intéresse pas à Dieu ni au service de Dieu. Il ne voit pas l'intérêt de servir. Pour lui, c'est une perte de temps. Il est prêt à vendre son droit d'aînesse contre juste un plat. Ésaü méprise ce qui, dans la parole de Dieu, a de la valeur. Le droit d'aînesse, c'était important sur le plan spirituel. C'était de prendre la responsabilité spirituelle de la lignée. Et il aurait dû en prendre conscience. Comment en est-il arrivé là? Est-ce que c'était la légèreté? Est-ce que c'était le manque de communion avec Dieu? L'assoupissement? Le manque de consécration? Le rejet des conseils de la parole de Dieu? Le fait de vivre sa vie sans se soucier de Dieu? Bref, il a choisi le chemin qui est loin du Seigneur. Finalement, donc, en conclusion, on voit que c'est Jacob qui a obtenu le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. C'est lui qui est devenu le père des 12 tribus que nous connaissons, les 12 tribus d'Israël. C'est lui qui va être le troisième patriarche après Abraham, Isaac, et ça va être donc Jacob, le troisième, et non pas Ésaü, pourtant le premier-né, mais ça va être Jacob. Dieu s'est choisi Jacob, parce qu'il a vu en lui des dispositions que n'avait pas Ésaü. Et si nous ne sommes pas dignes, ça n'arrêtera pas le plan de Dieu, mais Dieu se choisira une autre personne, un homme ou une femme, qui rentrera dans les plans et les projets que Dieu a. Donc on va prier le Seigneur quelques instants, que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole pour être dans la lignée de Jacob, la lignée de ceux qui s'attachent aux choses d'en haut, de ceux qui aiment la parole de Dieu, et non pas de la lignée d'Ésaü qui était celle de la chair et qui conduit vers la mort. Merci encore pour ta parole, merci pour ces conseils. Merci Seigneur pour cette parole qui nous invite à veiller sur notre âme, à veiller sur nos relations, à veiller Seigneur sur l'entretien de notre foi, de notre relation, de notre communion avec toi, afin de développer cette vie spirituelle d'abondance. Oui, Seigneur, tu es encore aujourd'hui le Dieu du miracle qui donne une famille à la femme qui est stérile. Seigneur, tu es encore capable de changer les situations bloquées et d'intervenir dans ta grâce, dans ta souveraineté. Ce soir, nous voulons dire que ton bras n'est pas trop court pour agir, pour relever, pour, Seigneur, accorder un nouveau départ. Et nous voyons que malgré que ce couple était conduit par Dieu, qu'ils ont traversé l'épreuve en s'appuyant sur ton intervention. Ô Seigneur, viens étendre ton bras puissant pour apporter dans nos familles, dans les couples que tu as formés toi-même, ta bénédiction, ta grâce et les solutions qui viennent d'en haut. Oui, comme Isaac, nous voulons implorer l'Éternel afin que Seigneur, ta gloire se manifeste dans nos familles, afin que tu interviennes de manière puissante, Seigneur, pour apporter des solutions, pour apporter, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour l'avancement de tes enfants. Merci pour aussi Jacob qui avait ce cœur pour s'attacher aux choses spirituelles, pour chercher les vérités qui sont en toi, pour chercher ce qui te plaît, comme ce droit d'aînesse. Il avait compris les valeurs spirituelles, il avait compris cet attachement à la présence de Dieu. Et nous voulons toujours veiller sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur notre cœur, afin d'être des chrétiens bouillants pour toi, non pas des chrétiens tièdes dont tu as dit que tu les vomirais de ta bouche, mais des chrétiens zélés, des chrétiens bouillants, remplis du Saint-Esprit, qui cherche vraiment à te plaire. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.